Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escute Israël.
Monseigneur Marc Ayé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron.
Monseigneur Marc Ayé, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour cet entretien diffusé simultanément sur Radio Lapourdie et sur Radio Présence. Alexandra Guerre, bonjour.
Bonjour Hélène.
Alors pour commencer cette émission, nous allons aborder un sujet qui vous tient à cœur, Monseigneur Ayé, au lendemain de cette mobilisation du 6 octobre à Paris. C'est la révision des lois de bioéthique avec pour sujet phare l'extension de la PMA à toutes les femmes. Alors vous l'avez déjà exprimé sur cette antenne, mais quels sont les enjeux de cette PMA pour toutes? Quels sont les dangers que vous voulez pointer particulièrement?
Alors d'abord, ce que je voudrais faire remarquer, c'est que à propos de cette révision des lois de la bioéthique cette année, vous aurez remarqué que la Conférence des évêques de France, en son entier, par l'intermédiaire de sa commission spéciale de bioéthique, sous la direction de Mgr Dornelas, a pris une position très, très forte et très ferme sur la gravité des enjeux de ce projet de loi de bioéthique. Et vous aurez remarqué aussi que les évêques dans leur diocèse, dans une immense majorité, sont tous intervenus, en tout cas pour souligner ces enjeux et marquer une ferme opposition à ces évolutions sociétales, si je puis dire, mais pour beaucoup aussi à encourager, à partir du moment où tous les autres ressorts de la démocratie ont été épuisés et parfois sans succès, eh bien les fidèles qui le désiraient en conscience a manifesté le 6 octobre à Paris. Alors, les enjeux de cette loi de bioéthique, bien sûr qu'on a mis le projecteur sur la PMA pour toutes, hein, qui est le projet phare, comme l'a dit la ministre de la Santé elle-même, et qui est le premier article de ce projet de loi, qui a été pour l'instant adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, mais qui ne préjuge pas de l'adoption de la loi dans un vote solennel, en deuxième lecture après être passé par le Sénat. Sans doute que c'est le projet phare, même s'il y a aussi beaucoup d'autres enjeux, par exemple par rapport à la dignité de l'embryon, par rapport à des embryons transgéniques et chimériques même, et d'autres choses qui sont assez graves concernant la dignité de la personne humaine depuis sa conception jusqu'à sa fin naturelle, qui sont un peu occultées dans le débat. Pour ce qui est de la PMA pour toutes, on le sait, c'est en gros le bouleversement de la filiation. Je crois que c'est la substitution d'une filiation d'intention à une filiation charnelle, qui appartient à la vérité sur l'homme. Finalement, derrière tout ça, il y a une conception anthropologique qui est profondément dualiste et qui considère donc qu'il y a une séparation entre l'âme et le corps, hein, et qu'il suffit de la volonté, de la liberté, pour disposer de son corps comme d'un matériau disponible et qui pourrait être extérieur même à la personne. Et vous savez combien l'anthropologie chrétienne est fondée sur une conception de l'homme qui est un de corps et d'âme. Hein, dans le Concile Vatican II, dans la constitution pastorale Gaudium et Spes, sur l'Église dans le monde de ce temps, où il y a un très beau chapitre sur la dignité de la personne humaine, auquel on peut se référer toujours aujourd'hui, il est dit que la personne est corpore et anima unus, en latin, c'est-à-dire une de corps et d'âme. Voilà. Ça veut dire que l'homme naît charnellement de son père et de sa mère. Il n'est pas seulement selon une intention, et de telle sorte que la technique pourrait se substituer à l'union charnelle entre un homme et une femme, qui, dans le meilleur des cas, est une union d'amour. Quand on dit d'ailleurs que deux hommes ou deux femmes en couple peuvent donner beaucoup d'amour à leur enfant, il ne s'agit pas de le nier, c'est évident, mais on pourrait dire aussi que cet enfant n'est pas né d'un amour charnel, il est né d'un acte technique. Il est né d'une intention anticipée, il est né d'une volonté anticipée. Et donc, on réduit finalement l'enfant à n'être que l'objet d'un désir ou d'une intention ou d'un projet parental, comme on dit. c'est un peu juste.
Et est-ce que ça, c'était déjà pas le cas avec la PMA, finalement? Mais, c'était déjà une figure.
Mais bien sûr, et vous savez bien que l'Église, dans un document très important de la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui s'appelle Donum Vitae, le don de la vie, qui date déjà de plusieurs années, peut-être deux décennies, eh bien, avait déjà attiré l'attention sur le fait que dans la PMA, même pour les couples hétérosexuels, dont l'infertilité a été médicalement diagnostiquée, ce qui est quand même aussi un paramètre important qui n'est pas visé dans la PMA pour toutes, qui est pourtant appelé à être remboursé par la Sécurité sociale, c'est-à-dire l'assurance maladie, ce qui est quand même une gageure, l'Église a toujours attiré l'attention sur ce fait que l'enfant naît d'un homme et d'une femme, mais à travers un acte physique, parce que le corps et l'âme sont unis dans la personne, et on ne peut pas les dissocier. Et je crois que ça, c'est une vérité sur l'homme que nous tirons de la révélation, mais qui est aussi décryptée par la raison et la sagesse des hommes depuis des millénaires, parce qu'au fond, pour faire un enfant, c'est depuis des millénaires qu'il faut un homme et une femme. Eh bien, je pense que c'est aussi un des points essentiels sur lesquels l'Église attire l'attention de la conscience humaine.
Concernant la loi de bioéthique, on sait que la GPA, c'est la prochaine étape. En quoi est-ce que ça sera une étape suivante dans ce processus?
Écoutez, dans la mesure où on a, de manière fallacieuse d'ailleurs, puisque même le Conseil d'État a émis un avis réservé par rapport à cela, on a mis en avant le principe de non-discrimination pour permettre à des couples de femmes d'avoir le droit de recourir à la PMA pour avoir un enfant, pour qu'il y ait égalité entre les couples hétérosexuels et les couples homosexuels. C'est fallacieux comme principe, parce que dans la mesure où il y a une différence fondamentale entre un couple hétérosexuel qui est effectivement disposé naturellement à la génération et un couple de femmes qui, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas apte à la génération et qui n'a d'ailleurs pas de problème d'infertilité, ce qui est aussi très compliqué. Et donc il n'y a pas de discrimination dans ce cas-là. Mais dans la mesure où on a mis en avant ce principe de non-discrimination, mais on ne voit pas très bien comment les femmes en couple pourraient avoir le droit de mettre au monde un enfant par la PMA et que les couples d'hommes ne pourraient pas avoir ce même droit par la GPA pour le coup, et qui fait entrer encore dans une notion tout à fait perverse, qui est celle de la marchandisation du corps de la femme et la marchandisation même de l'enfant.
Alors, le gouvernement était un peu, la majorité en tout cas, était pris de court par un amendement qui a été voté justement sur la filiation des enfants nés d'une gestation pour autrui à l'étranger, alors qu'il répète à l'envi qu'il n'y aura pas l'égalisation de la GPA, de la gestation pour autrui en France. Comment vous interprétez-vous cet amendement ?
Mais d'abord, de toute façon, moi je ne crois pas un instant le gouvernement quand il dit qu'il n'y aura pas de légalisation de la GPA, puisque nous sommes dans un phénomène de roue crantée, irréversible. Quand ils ont présenté le projet de loi sur le PACS, ils ont juré leur grand Dieu qu'il n'y aurait pas de mariage pour les personnes de même sexe. Quand ils ont voté le projet de loi Taubira pour le mariage pour tous, ils ont juré leur grand Dieu qu'il n'y aurait pas de PMA. Et quand aujourd'hui ils font passer la PMA à l'Assemblée, ils jurent leur grand Dieu qu'il n'y aura pas de GPA. Donc il ne faut pas croire un instant la vérité de ces paroles politiques qui ne sont que des sincérités successives dont on a l'expérience, hélas, sous les yeux. Mais non, je pense que ce n'est pas contradictoire. C'est qu'au sein de l'Assemblée, il y a des lobbies qui veulent faire avancer les choses. Et donc, ils n'ont pas pris de cours, mais en tout cas, ils ont introduit la GPA dans un débat qui ne concernait pas encore, effectivement, selon les intentions déclarées, la gestation pour autrui.
Alors, le 6 octobre, il y a eu une mobilisation assez importante à Paris. Alors, au-delà de la bataille des chiffres, on ne saura jamais quel est le chiffre exact, mais est-ce que c'est vraiment utile, selon vous, de manifester, ou est-ce que tout n'est pas déjà plié, comme disent certains?
Alors, c'est vrai que beaucoup s'étaient dit que tout était plié, et moi, j'avais d'ailleurs écrit dans ma lettre adressée au diocésain le 22 septembre que, même si ça pouvait paraître plié dans le court terme, il n'empêche qu'une manifestation massive de citoyens, j'entends bien de citoyens parce que ça ne concerne pas que des catholiques, et les catholiques le sont surtout en tant que citoyens dans ce genre de manifestation, eh bien c'est l'occasion de faire entendre de manière un peu importante une voix du peuple qui n'est pas entendue dans les officines de l'Assemblée nationale, qui devrait être représentée par ses élus. Mais vous remarquerez que le premier article de ce projet de loi qui soi-disant et le projet phare de la loi de bioéthique, il y avait une soixantaine ou 70 ou 80, pas plus, parlementaires dans une Assemblée nationale qui en compte 577. Donc on peut se demander si les citoyens sont vraiment représentés par leurs élus quand on sait que ça a été voté par 55 voix pour et 17 voix contre. Donc c'est inimaginable. Bon, donc ça montre bien que les citoyens doivent prendre leurs responsabilités et se faire entendre par un moyen qui... La bataille des chiffres n'a pas beaucoup d'importance parce que je crois que tout le monde a reconnu que ce mouvement était de grande ampleur et quel que soit le chiffre retenu, même si on retenait que le chiffre de cette agence indépendante en l'occurrence, c'est de toute façon beaucoup plus que n'importe quel mouvement social en France qui n'est plus capable de rassembler autant de monde dans une telle détermination et surtout dans un climat aussi pacifique. Il y a eu très peu finalement, ils ont été débordés par le nombre, les organisateurs eux-mêmes. Ce qui montre que les gens ont réagi et que ça n'est que le début. Ils ont annoncé d'autres manifestations et je pense que ça va encourager beaucoup d'autres. Parce que ceux qui se sont dit, oh, bah, de toute façon, c'est pied d'avance, restons chez soi, bah, ils ont vu quand même qu'il y avait 600 000 ou 80 000 selon les organisateurs, qu'importe, mais un mouvement suffisamment important pour que les médias les relayaient pour la première fois. Moi, j'étais très attentif à ça, quel que soit le chiffre que finalement on a retenu dans les médias. Il n'empêche que tous les médias en ont parlé. Et dimanche, moi je revenais de ma visite pastorale en voiture depuis Garlin, et toutes les 10 minutes sur France Info, ils interrogeaient des gens dans la foule, ils faisaient parler des représentants des associations qu'on appelait manifester. Donc il y a quand même une caisse de résonance. Ça peut encourager en effet d'autres qui sont certainement, à mon avis, en grande majorité en France, à manifester à nouveau leur opposition à ce projet de loi.
Nous nous retrouvons dans quelques instants pour parler de quelques événements diocésains passés.
Radio La Pourdire à Tia, 96.8 à Bayonne, 96.9 à Saint-Palais, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Monseigneur Hayé, le 4 septembre dernier, c'était la messe de rentrée de l'enseignement catholique et vous accueillez les nouveaux chefs d'établissement, mais surtout le nouveau directeur de diocésain de l'enseignement catholique, Vincent Desté.
Voilà, qui recevait officiellement sa mission de directeur diocésain de l'enseignement catholique. Donc voilà, après le départ de Jean-Marc Apol, qui, je l'espère, a bien pris les marques de son nouveau poste de directeur diocésain des diocèses de Montpellier et de Mende, eh bien, nous avons donc accueilli ce nouveau directeur diocésain, voilà, qui avait déjà fait sa journée de pré-rentrée à Saint-Joseph de Nailles avec les chefs d'établissement et qui était présenté de manière plus officielle, donc à lancement catholique, réuni pour sa messe de rentrée que j'ai souhaité faire à la cathédrale depuis 2 ans pour lui donner une plus grande visibilité, hein, pour que lancement catholique ne soit pas confiné dans ses murs, mais qu'on puisse prendre la mesure de sa place dans l'Église diocésaine, et donc dans la mission de l'Église diocésaine, en l'occurrence par l'éducation, l'annonce de l'Évangile à toutes ces enfants et ces familles qui sont partie prenante de notre enseignement catholique.
Est-ce qu'il y a des priorités que vous avez demandées à ce nouveau directeur d'enseignement catholique? Quelle est la feuille de route, finalement, que vous lui avez confiée?
Alors d'abord, ma priorité, évidemment, c'était de recruter quelqu'un qui soit non seulement compétent dans le domaine de l'enseignement catholique, mais bon, il a été 12 ans adjoint du directeur diocésain de Lyon, qui est une grosse boutique de 90 000 élèves scolarisés dans l'enseignement catholique. Donc je pense que là, il n'y avait pas de souci pour sa compétence technique, académique, mais c'était de recruter quelqu'un qui soit un vrai disciple missionnaire, hein, qui soit tellement convaincu de sa foi et pour qui, une foi qui a vraiment transformé sa vie, hein, depuis sa première rencontre avec le Seigneur, à travers ses engagements familiaux, professionnels et autres, pour qu'il puisse prendre la mesure de l'objectif que nous donnons à l'enseignement catholique en France, en tout cas les évêques de France, qui est de permettre à des jeunes de rencontrer Jésus-Christ dans une communauté ecclésiale. Voilà. Ensuite, l'un des objectifs majeurs que je lui ai donné, c'est de mettre en place une gouvernance de proximité, qu'il soit proche des réalités du terrain, qu'il soit proche des chefs d'établissement et des communautés éducatives, pas lui tout seul, mais avec son équipe, hein, ses chargés de mission et autres, et qu'il accompagne vraiment les chefs d'établissement, en particulier ceux qui sont plus éloignés, ceux qui sont confrontés à des difficultés, en particulier de nombre, d'isolement, etc. Et puis ensuite, l'autre grand objectif de cette feuille de route, c'est aussi qu'ils soient très soucieux de la formation des maîtres et de la formation des animateurs en pastorale scolaire, en particulier la formation aux fondamentaux d'une mission éducative chrétienne, donc l'anthropologie chrétienne, l'ecclésiologie, la christologie, enfin qu'ils soient très attentifs aussi à cette dimension.
Autre événement diocésain, le 8 septembre dernier, Mgr Hayet, vous avez ordonné deux nouveaux diacres permanents, c'était à Bizanos. Alors qu'est-ce que c'est que des diacres permanents pour ceux qui ne connaissent pas? À quoi servent-ils?
Alors le Concile Vatican II a rétabli le diaconat à titre permanent. Jusqu'à présent, depuis assez longtemps maintenant dans l'Église, les diacres n'étaient qu'en transit, si je puis dire. Donc ils étaient ordonnés diacres pour être ordonnés prêtres. On a rétabli donc le diaconat en lui-même comme le ministre par excellence du service, qui n'est pas seulement un service que n'importe qui pourrait accomplir, mais qui nécessite une ordination, c'est-à-dire l'imposition des mains et le don de l'Esprit-Saint, qui configure ces hommes qui sont mariés, mais qui pourraient être célibataires d'ailleurs, au Christ serviteur, et comme des collaborateurs de l'évêque et des prêtres, en particulier dans le service des frères, donc de la charité, mais lié évidemment à une dimension de service de la liturgie et de service de la parole.
On en a combien dans notre diocèse?
Alors nous avons une dizaine de diacres. Il y en a un malheureusement qui est décédé d'un cancer cet été, que j'avais ordonné avec un autre, là, au début de mon ministère épiscopal. Et puis, donc, il y a ces deux nouveaux diacres permanents, l'un qui est de Bizanos, l'autre qui est de Gers, et qui se sont préparés avec deux années de prédiscernement, déjà quatre années de formation au niveau de la région, puisque nous mutualisons nos forces, tous les diocèses de cette région, pour la formation de nos diacres permanents, et qui ont encore deux années de formation un peu plus pastorale après leur ordination.
La rentrée pastorale a été marquée par le décès du cardinal Echegaray, c'était le 4 septembre, et le 9 septembre, c'était ses obsèques, ses funérailles à la cathédrale de Bayonne. Ça a été un temps important aussi dans le diocèse et dans l'Église.
Ah oui, je crois que c'était un temps fort pour le diocèse, bien sûr, parce que c'est nous qui avons assuré les funérailles du cardinal, mais c'était vrai un temps important pour la France et pour l'Église universelle, parce que c'était un Basque universel, comme on l'a dit. Mais je crois que c'est d'ailleurs dans les gènes des Basques d'être facilement universel et d'exporter leur spécificité culturelle. Carles Echegaray était l'ambassadeur de la paix de Jean-Paul II. Il a eu, et c'est vrai, une carrière ecclésiastique, si on peut dire, assez hors norme et reconnue par tous. Et donc ça a été aussi, un moment de rassemblement et de communion, au-delà de toutes les sensibilités ecclésiales, au-delà de toutes les différences qui peuvent nous affecter entre l'Église et le monde, par exemple, parce qu'il a été vraiment, lui, un pont entre l'Église et le monde en allant à la rencontre des grands hommes d'État, même les plus difficultueux et les plus difficiles de la planète. Donc je crois que ça a été un grand moment, et je tiens à féliciter tous les membres de notre diocèse qui se sont très vite, en quelques jours, mobilisés pour permettre l'accueil aussi de beaucoup de personnes qui ont convergé vers Bayonne à l'occasion des funérailles du cardinal.
Alors le 15 septembre dernier, c'était un autre grand rassemblement diocésain pour le pèlerinage à Lourdes, où chaque année vous accompagnez les malades durant plusieurs jours. Alors là aussi, c'est l'occasion d'un grand rassemblement diocésain. Vous encouragez toute personne à y participer.
Oui, je pense qu'il faudrait encore sensibiliser encore plus les fidèles de notre diocèse à participer à cette journée diocésaine en particulier, où nous rejoignons donc le dimanche le pèlerinage de l'hospitalité basco-béarnaise, qui est une belle institution qui rassemble cette année 470 malades, 1200 hospitaliers, dont 200 jeunes de nos établissements d'enseignement catholique essentiellement, et donc vraiment un grand moment de communion ecclésiale, ça c'est vrai, entre les bien portants et les malades, entre les jeunes et les vieux, entre toutes les sensibilités, je dirais, de notre diocèse, qui se retrouvent très volontiers ce jour. Nous sommes moins 4000, je pense, pour la messe à Sainte-Bernadette. Et c'est un temps fort de ferveur et de communion. Et j'encourage vraiment les fidèles du diocèse et à prendre le temps de rejoindre à Lourdes à cette occasion.
Le 1er septembre, c'était la journée
octobre.
De... 1er octobre, c'était la journée de rentrée des catéchistes à Salis de Berne. Qu'est-ce que vous avez dit aux catéchistes cette année ?
Alors, on m'avait demandé de plancher sur le thème « J'ai cru » et c'est pourquoi j'ai parlé. Voilà. Donc, c'était une manière de mettre les catéchistes face à leur vocation de disciples missionnaires, selon l'expression qui est devenue importante dans la vie de l'Église aujourd'hui. Leur dire que c'est la conviction de leur foi qui les mettait en position de transmettre la foi. Et qu'il ne s'agissait pas seulement d'être au fait d'une méthode, même d'un contenu de vérité, que la catéchèse n'est pas seulement une transmission de savoir avec la pédagogie qui convient aujourd'hui aux enfants qui sont confiés à nos paroisses, mais il s'agit d'abord d'être des croyants. Il s'agit d'avoir une foi qui forme et transforme la vie, et pas seulement une adhésion intellectuelle à des vérités qui pourraient demeurer abstraites et qui donc s'enracine dans une vraie rencontre avec le Seigneur. Donc j'ai insisté, en effet, auprès des catéchistes sur cette nécessité pour eux de faire l'expérience de cette rencontre avec le Seigneur, qu'en général ils ont faite, mais dont il s'agit de faire mémoire sans cesse, et à travers une fréquentation de la parole de Dieu, des sacrements de l'Église, de la prière, et bien d'être vraiment tellement reliés au Seigneur et tellement transformés dans leur vie, dans leurs horizons, dans leurs orientations, par cette rencontre avec le Seigneur, qu'ils puissent être vraiment des témoins pour les enfants qui leur sont confiés.
Des paroisses expérimentent, je crois, depuis cette année, un nouvel ordre pour les sacrements de l'initiation chrétienne.
Voilà, après des débats au Conseil presbytéral, dont j'avais pris, comme vous savez, la décision de remettre les sacrements de l'initiation chrétienne dans l'ordre, donc baptême, confirmation, eucharistie, dans le meilleur des cas, même s'il peut y avoir bien des exceptions et bien d'autres manières de faire, selon des jeunes qui arrivent seulement après avoir été baptisés, mais qui arrivent au catéchisme en 6e ou 5e, ou par exemple des adultes qui n'ont pas été confirmés mais qui ont fait leur première communion. Donc il y aura toujours de toute façon l'ordre et le désordre, si je puis dire, dans ce domaine. Mais pour la catéchèse d'initiation, de pouvoir remettre progressivement cet ordre, de manière à ce que les enfants soient confirmés plus jeunes, donc qu'ils soient confirmés, parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui, beaucoup de nos chrétiens adultes qui demandent par exemple le mariage ou qui font baptiser leurs enfants ne sont pas confirmés. Or, c'est un sacrement d'initiation chrétienne qui n'est pas facultatif ni optionnel. Et donc, les choses ayant été promulguées, eh bien, il faut du temps pour que ça se mette en place. Il peut y avoir un processus selon les paroisses. Et donc, j'ai souhaité qu'il y ait déjà des paroisses qui acceptent d'être un peu pilotes pour qu'on puisse faire le bilan et encourager ceux qui ont encore un peu du mal à mettre ça en place.
Ça veut dire la confirmation en CM1, la première communion en CM2.
Voilà, confirmation en CM1 et première communion en CM2. Et en sixième, la profession de foi qui permet aux jeunes entrant davantage dans l'âge de l'adolescence, si je puis dire, même si elle est plus précoce aujourd'hui, de ratifier les trois sacrements d'initiation chrétienne qu'il aura reçus au cours de sa catéchèse d'initiation.
Vous avez également promulgué de nouveaux documents catéchétiques qui sont valables à partir de maintenant.
Voilà, j'avais demandé au service diocésain de la catéchèse d'étudier un peu les nouveaux documents, parce qu'il en sort tous les ans et qui sont souvent très pertinent. Il y a une floraison de documents catéchétiques. Je n'avais pas fait de promulgation depuis 2013, je crois. Donc c'était l'occasion de proposer d'autres documents. Mais comme je le dis toujours, cette promulgation est une recommandation. Elle n'est pas une espèce de loi cadre. Ça veut dire qu'il est toujours possible même d'utiliser d'autres documents et d'autres documents qui ont été déjà promulgués. Mais que ce soit toujours en lien avec le service diocésain de la catéchèse pour que tous les paramètres que l'on veut trouver dans ces documents soient honorés par ceux qui sont utilisés dans les paroisses.
Monseigneur Ayer, vous avez assisté, si je puis m'exprimer ainsi, au pot de départ du cardinal Ricard.
Voilà, c'est-à-dire que c'était une belle initiative prise par, je crois, le vicaire général du diocèse de Bordeaux d'inviter à une journée festive autour de lui, avant son départ, tous ceux qui ont été ordonnés évêques, prêtres ou diacres par lui au cours de son épiscopat. Et donc je faisais partie des 7 évêques qui ont été ordonnés par lui au cours de son épiscopat. Et nous étions 4 autour de lui. On était en tout 70. Et une journée qui a commencé par la prière, un long exposé qu'il nous a fait sur son ministère épiscopal et ses perspectives d'avenir, une messe célébrée ensemble. Puis ensuite, nous avons sur la Garonne, dans un bateau mouche, si je puis dire, déjeuné de manière très, très sympathique.
Moi, missionnaire extraordinaire. Baptisé et envoyé, l'Église du Christ en mission dans le monde. Tous les renseignements sur www.diocèse64.org.
Monseigneur Marcaillet, nous nous retrouvons pour cet entretien diffusé sur Radio Présence et Radio Lapourdie. Dans l'Église universelle, il y a eu récemment la journée du migrant et du réfugié qui auparavant a été célébrée en janvier et qui a été célébrée le 29 septembre dernier. Le thème, il ne s'agit pas seulement de migrants. Alors, quelle parole l'Église a-t-elle à donner alors que justement le débat a été relancé par le gouvernement récemment?
Alors, c'est sûr que moi j'étais un peu pris de court parce que de fait c'est en janvier d'habitude et ça a été le 29 septembre et moi j'étais aux Béatitudes pour célébrer les 40 ans de leur présence dans le diocèse. Ceci dit, cette journée du migrant et du réfugié est toujours très importante et le pape dans son message pour cette journée mondiale a insisté sur le fait qu'il n'y a pas que les migrants mais c'est aussi notre attitude. Notre attitude vis-à-vis de ceux qui sont étrangers. Je lisais ce matin dans la lecture brève de l'Office de Thiers, ne méprisez pas l'immigré, la veuve et l'orphelin. Donc il y a toutes sortes de fragilités dans notre société et beaucoup de ceux qui sont mis sur la route malgré eux pour fuir des situations de guerre ou de famine, arrivent dans des situations où ils sont pas forcément très bien accueillis, pas seulement par le fait qu'ils sont considérés comme des étrangers, qu'il pourrait y avoir des réflexes identitaires, ce qui est assez normal dans toute société qui se respecte, mais aussi parce qu'on ne prend pas forcément les moyens de les accueillir vraiment. Je pense à des familles de notre diocèse qui accueillent précisément des mineurs non accompagnés, qui eux restent ici quand ils arrivent par Hendaye, et on les met dans des espèces de j'allais dire pas des camps, mais dans des bâtiments, dans des foyers, où ils sont absolument livrés eux-mêmes, où il n'y a vraiment aucun accompagnement vrai, aucun souci éducatif, que la seule chose qu'on leur met dans les mains, c'est un smartphone, et quelques facilités, je dirais, financières, mais on les aide pas vraiment. Et je vois une famille qui a pris chez elle, alors qu'ils ont 6 enfants, un jeune migrant musulman nigérian, et ils se rendent compte que, malgré tout l'amour qu'ils ont pour lui, évidemment, et ça fait plusieurs mois, qu'ils sont un peu seuls pour s'occuper de lui, et qu'ils sont un peu dépassés parce que il y a fossé culturel que ça peut mettre en péril même la vie de la famille, si vous voulez. Et donc ils regrettent pas de le faire et de l'avoir fait, mais ils se disent on est un peu démunis, on n'a pas grand monde autour de nous, on n'est pas très bien organisé pour ça. Donc je pense qu'il y a tout un travail collectif, et je pense que l'État lui-même est tout à fait en deçà des exigences que comprennent sa volonté d'accueillir des réfugiés et des immigrés.
Le pape François vient d'ouvrir l'Assemblée spéciale du Synode des évêques pour l'Amazonie, qui se déroule jusqu'au 27 octobre. Le thème de ce synode, c'est « Nouveaux chemins pour l'Église et pour une écologie intégrale ». Ce synode est décrié par certains, un membre notamment de l'Église, des cardinaux. Vous, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors moi, je suis un peu partagé. C'est vrai, quand on lit l'Instrumentum Laboris, c'est-à-dire le document de travail, qui a été élaboré après des questionnaires normalement dans les différentes communautés de l'Amazonie et qui doit guider la réflexion de ce synode, on reste un peu perplexe. On reste un peu perplexe sur la vision que l'on a des cultures païennes qui ont précédé l'Évangile et qui sont encore présentes en Amazonie. On reste perplexe sur certains moyens que l'on préconise, même si c'est, comme dit le pape, un seul numéro dans les 149 numéros de cet Instrumentum Laboris, sur la possibilité d'ordonner des viri probati, c'est-à-dire des hommes mûrs, au sacerdoce, mariés, pour pouvoir permettre à ces communautés d'avoir l'Eucharistie, alors qu'ils sont en effet très éloignés des lieux de mission. On reste perplexe aussi sur tous les mouvements théologiques ou politico-théologiques qui gravitent autour de ce synode. Dans Famille chrétienne, je lisais l'interview d'un évêque que je connais bien, Dominique Hugh. On s'est connu par le passé quand on était scout, et qui se trouve être évêque en Amazonie, et qui dit « Moi, je ne retrouve pas dans l'Instrumentum Laboris les réponses que nous avons données au questionnaire. » Et il dit « Pour moi, c'est pas le problème des viri probati, même si j'ai très peu de prêtres et des kilomètres carrés à traverser. C'est pas ça, sans doute, la solution miracle pour résoudre le problème, car ça fera jamais tellement plus de prêtres disponibles pour ces communautés. C'est surtout l'évangélisation. » Et il regrette, quant à lui, qu'il y ait très peu de références bibliques dans cet Instrumentum Laboris, en disant l'Église, elle est d'abord à l'écoute de la parole de Dieu, qui a été traversée par qui a été transmise par la tradition de l'Église, et on ne trouve pas beaucoup ses sources dans ce document. Un autre évêque interrogé dit « On a l'impression que cette question des viri probati est davantage la demande de gens extérieurs à l'Amazonie que des évêques de l'Amazonie elle-même. » Et c'est ce qui fait que, sans doute, que le pape François, dans son discours inaugural, le 7 octobre, de cette assemblée synodale, a dit de manière assez précise « De toute façon, il est bien évident que c'est un texte martyr qui est appelé à être détruit. » C'est dire combien il a pris peut-être la mesure qu'il pouvait y avoir quand même un peu de controverse.
Le pape s'est trompé en convoquant ce synode ?
Sûrement pas, c'est pas le pape qui se trompe. Le pape, il confie ça à un certain nombre de gens qui préparent ce document, ça, il n'y a pas de souci. Et puis le pape, il donnerait sa parole au terme du synode. Non, je pense que la question n'est pas là, l'opportunité du synode. C'est peut-être quand même un certain nombre de théologiens qui veulent faire avancer aussi des choses qui ne concernent pas seulement l'Amazonie. Or, en l'occurrence, il s'agit de l'Amazonie qui ne peut pas être considérée comme le prototype de la vie de l'Église universelle.
Alors, cette Amazonie, c'est quand même un grand lieu de débat aujourd'hui, notamment par rapport au gouvernement brésilien, par rapport à la protection de l'environnement, par rapport à ce qu'on appelle le poumon de la planète, même s'il n'y a pas que l'Amazonie qui contribue. Voilà. Mais il y a quand même des questions, on en a parlé tout à l'heure.
Écologique.
Voilà, écologie, mais aussi...
Mais c'est pas nouveau, ça, c'est pas lié au nouveau gouvernement brésilien. Je crois que les incendies de l'Amazonie qu'on a beaucoup décriés cet été, en le mettant sur la responsabilité de ce gouvernement qui est en place depuis quelque temps, je crois, en fait, les incendies étaient beaucoup plus ravageurs dans les années 80. Hein, y a moins d'incendies aujourd'hui, et ils sont moins destructeurs que les années 80. Donc ça reste un vrai problème écologique, hein, mais ce n'est pas le seul problème de l'Amazonie. Et puis l'Amazonie, ce n'est pas seulement le Brésil, hein, c'est quantité d'autres pays qui sont sur cette grande région de la Terre.
Alors le pape François a proclamé ce mois d'octobre, un mois missionnaire extraordinaire. Alors on va évoquer ce qui va se passer dans notre diocèse, il va y avoir plusieurs événements liés à cela. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait être missionnaire, un mois missionnaire? Ça peut être assez vague aussi comme terme.
Alors en fait, c'est pour le 100e anniversaire d'une encyclique de Benoît XV, donc en 1919, qui est intitulé Maximum Illud, et qui avait insisté sur l'importance de l'annonce de l'Évangile vers les nations lointaines, hein, ce qu'on appelle traditionnellement dans l'Église la mission ad gentes, c'est-à-dire la mission vers l'extérieur, hein, dans tous ces lieux où les populations ne sont pas encore évangélisées. Je crois que c'est d'ailleurs vraiment le cœur du synode de l'Amazonie dont nous parlions il y a un instant, que l'évangélisation de tous ces peuples qui sont encore pour beaucoup restés enfermés dans des cultes païens qui ont des côtés positifs, qui ont été d'ailleurs pointés par cet Instrumentum Laboris, mais qui ont aussi des côtés extrêmement négatifs, hein, les sacrifices d'enfants et autres qui restent quand même présents dans ce genre de culte. Donc c'est l'annonce de l'Évangile vers les lointains, mais qui nous concerne tous, pas seulement pour susciter une plus grande générosité dans nos pays chrétiens, de vieille chrétienté, vers ceux qui ont besoin d'entendre l'Évangile, mais c'est aussi pour essayer de nous rappeler qu'ici même, nous sommes aussi appelés à la mission Gentes, puisque ces populations viennent chez nous, d'ailleurs, et ont besoin aussi, et ont le droit en tout cas, à entendre l'Évangile.
C'est presque eux qui nous réévangélisent même.
Alors il y en a aussi qui viennent nous réévangéliser, ça c'est sûr. Il y a des prêtres qui viennent des églises jeunes d'Afrique par exemple, qui viennent nous aider en tout cas à annoncer l'Évangile là où on a un peu plus de difficultés à détourner la pénurie de prêtres que nous connaissons.
Le 20 octobre, il y aura la commémoration des 150 ans de la création des Pères Blancs.
Voilà, donc il y aura plusieurs événements pendant tout ce mois missionnaire. Le 13 octobre, il y aura la traditionnelle journée à Terre-Église au sein de notre diocèse, qui aura lieu cette année à Ossès, qui est d'ailleurs a pour curé un prêtre venu du Congo, hein, comme vous le savez, le Père Gracia. Et puis le 20 octobre, ce sera le 150e anniversaire de la fondation des Pères Blancs, hein, qui est la société des missionnaires d'Afrique, puisque le canal de la Vigerie est né à Bayonne. Et c'est pourquoi le provincial des Pères Blancs a souhaité que l'on puisse marquer l'événement à Bayonne.
Puis nous sommes jumelés avec le diocèse de Cara. Alors ça fait déjà maintenant quelques années. Où est-ce qu'on en est dans ce jumelage qui suit son cours ?
Alors il suit son cours, comme vous dites. Il y a eu des échanges de prêtres qui sont chez nous, de séminaristes qui sont allés faire des stages intercycles chez eux. Et puis ben, là, on en est à la période de sensibilisation du diocèse à ce jumelage. Donc le comité du jumelage, qui est présidé par l'abbé Victor Gomez, a réalisé une petite vidéo qui est en ligne sur notre site et qui est appelée à être diffusée dans le diocèse pour sensibiliser les paroisses à ces relations fraternelles à construire avec des réalités ecclésiales de Cara.
Merci beaucoup, Monseigneur Ayer. On continue juste après la pause.
Radio Lapourdi, Iratia, 96.8 à Bayonne, 96.9 à Saint-Palais, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Seigneur Ayer, nous terminons cette émission avec les événements de la vie diocésaine à venir, mais vous rentrez tout juste d'une visite pastorale à Garlin. Alors, est-ce que ça veut dire que vous reprenez un cycle de visites pastorales ou au contraire, vous clôturez
J'ai repris mon bâton de pèlerin pour clôturer un cycle qui n'avait pas été complètement achevé et qui me donne à penser que je pourrais reprendre un nouveau cycle de visite pastorale dans les années qui viennent, parce que je crois que ça reste une très importante pour mon ministère épiscopal, parce qu'il s'agit d'aller à la rencontre, il s'agit d'aller sur le terrain, de passer un peu de temps avec les prêtres et les fidèles qui sont engagés dans la mission, avec les réalités humaines du territoire aussi qui est traversé. Ici, c'est un territoire tout à fait intéressant, puisque c'est le Vic-Bil, donc on appelle le vieux pays, hein, en Béarnais, qu'on a appelé autrefois la Sibérie du diocèse, qui est l'extrémité de notre diocèse. La paroisse de Garlin a une petite commune qui s'appelle Heidi, qui est une commune viticole tout à fait magnifique, et qui se trouve vraiment aux confins des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées et du Gers. Donc on est vraiment à l'extrémité de notre diocèse.
J'ai choisi le mois d'octobre pour aller vendanger là-bas.
Alors ils commencent la vendange, mais j'ai choisi la date qui correspondait, c'était la rentrée. En tout cas, c'était intéressant parce que j'ai rencontré la réalité viticole du Madiran et du Pachrinck. Et d'ailleurs, j'ai été intronisé comme vigneron d'honneur de la viguerie royale du Madiran. C'était à Heidi, avec pas mal de viticulteurs. C'était un moment très convivial, avec dégustation de vin de Madiran, qui, comme dit le psalmiste, réjouissent le cœur de l'homme. Et donc, c'était un beau temps de rencontre, avec à la fois l'hérité humaine et puis la paroisse, où j'ai vu beaucoup de fraternité, beaucoup de sens du service, et que j'ai pu stimuler, comme d'habitude, en vue de la mission d'annoncer l'Évangile aujourd'hui.
Est-ce que des comptes rendus sont prévus après ces visites pastorales ? Est-ce qu'il y a un suivi des décisions qui peuvent être prises ou
Alors
des
en fait, il n'y a pas de décision à prendre, hein. C'est une visitation, donc c'est une visite pour encourager et stimuler dans la foi et dans l'annonce de l'Évangile. Donc je fais un récapitulatif de la visite à l'homélie conclusive, et ensuite les paroissiens sont invités à faire un petit compte-rendu pour la revue diocésaine. Mais c'est pas, on prend pas de décision, on stimule. Et je sens d'ailleurs que il peut y avoir des choses qui vont être mises en place après, à l'initiative des curés, après une visite comme celle-là. Je crois que c'est ça surtout. D'ailleurs, les paroissiens à la fin me disent, on se sent encouragé, on se sent stimulé, regonflé pour la suite. Donc c'est plutôt bon signe.
En ce début d'année pastorale, Monseigneur, est-ce que vous souhaitez annoncer des événements importants qui vont marquer notre diocèse cette fin d'année ou l'année prochaine?
Alors je crois qu'il y a deux événements importants, peut-être un peu plus, mais on va déjà donner comme premier événement important, d'abord le 19 octobre, la journée des mouvements et associations de fidèles, ça qui est déjà prévu depuis un certain temps et qui a lieu tous les deux ans et qui permet à nos mouvements et associations de fidèles de se rassembler pour se connaître, partager leurs expériences. Et j'aimerais qu'on donne un peu plus de visibilité, même dans le diocèse, pour rappeler que ces mouvements et associations de fidèles sont au service de la mission, localement, dans les paroisses et dans nos communautés.
Donc 19 octobre,
19 octobre à l'abbaye de Belloc, voilà.
Le thème d'ailleurs, c'est « Faire église tous différents en mission ».
Voilà, vous voyez, donc c'est tout à fait dans la ligne de nos orientations actuelles. Les deux autres événements importants, c'est le samedi 23 novembre, sera lieu à la salle Saint-Bernard, donc à Bayonne, parce qu'il fallait un lieu un petit peu grand pour réunir tout le monde, qui sera une assemblée des conseils pastoraux paroissiaux. Je viens d'envoyer un rappel aux curés de paroisse pour mobiliser leurs fidèles afin de partager ce beau rassemblement. Le but, si vous voulez, c'est d'appeler les fidèles laïcs à contribuer à la mise en place ou la mise en œuvre d'un véritable élan missionnaire dans nos communautés, qui passe par les cinq essentiels que l'on connaît de la vie de l'Église, qui étaient rappelés par le pape Saint Jean-Paul II dans Christi Fides Laici, qui est une exhortation apostolique sur la vocation et la mission des laïcs dans l'Église et dans le monde, et qui reprend un peu les grandes dimensions des premières communautés chrétiennes telles que Saint Luc nous le rapporte dans les Actes des Apôtres. La prière, la formation, la fraternité, le service et l'évangélisation. Et il s'agira, avec les conseils pastoraux, auxquels on invitera aussi les responsables de mouvement, les candidats au nouveau parcours Cléophas de cette année, avec l'aide de deux intervenants extérieurs qualifiés, de faire l'expérience concrète ensemble de ces cinq essentiels, qui devraient avoir pour objet de mettre en œuvre cette orientation diocésaine, de constituer une église qui soit toujours plus recentrée sur le Christ, toujours plus en communion entre les divers états de vie et les divers membres de la communauté, en sortie missionnaire, c'est-à-dire appeler à annoncer l'évangile à ceux qui sont loin ou qui se sont éloignés.
Alors vous avez évoqué le parcours Cléophas, donc ce cycle de formation qui dure deux ans, qui a formé justement des disciples missionnaires. Mais comment concrètement ces laïcs vont-ils jouer un rôle missionnaire? Ils ne sont pas spécialement envoyés dans un mouvement ou un service spécifique?
Voilà, c'est là où on voit bien qu'il ne s'agit pas en effet de préparer des animateurs qui vont participer au fonctionnement. D'ailleurs, en général, ils y participent déjà. Qui est la catéchèse, qui est la liturgie, qui est dans beaucoup de services de leur paroisse. Mais il s'agit de susciter une nouvelle conscience missionnaire, qui soit une conscience, j'allais dire, commune, collective, et qu'il soit, pour le curé, les têtes de pont, si vous voulez, d'une petite fraternité missionnaire qui va porter des initiatives missionnaires en direction de ceux qui sont plus loin, et donner un élan missionnaire à leur communauté. Voilà. Donc je dirais que c'est tout bénéfice, et je vois même que dans certaines paroisses, où ils ont pu envoyer comme ça 6 jusqu'à 12 membres au parcours Cléophas qui vient de s'achever, ils sont là, prêts, avec leur curé, à porter des initiatives missionnaires au sein de leur paroisse. Le nouveau parcours s'ouvre avec une cinquantaine de candidats, et on a été obligé de bloquer le chiffre à 50, parce que ce serait trop pour accompagner, mais il y en a d'autres qui auraient pu être encore inscrits cette année.
Le séminaire aussi a repris cette année avec un nouveau recteur.
Voilà, donc l'abbé Philippe Beitia, comme vous le savez, a été appelé à à devenir vicaire épiscopal. Il est aussi chancelier et avec pas mal de charges concernant un centre de services. Et j'ai demandé à l'abbé Louis-Marie Rineau, qui est de la fraternité de Saint-Thomas-Becket, mais qui était déjà dans le diocèse depuis plus de 6 ans, et professeur de théologie morale et directeur des études et père spirituel au séminaire, de prendre la direction du séminaire. Et donc je pense que les choses se passent tout à fait bien, la transition s'est faite de manière tout à fait paisible.
Combien de séminaristes dans cette rentrée ?
Alors aujourd'hui, on a accueilli 5 propédeutes et un nouveau séminariste, plus les séminaristes qui sont là déjà et qui continuent leurs études.
Il y aura une porte ouverte du séminaire diocésain, mais du séminaire rédemptorisme à terre le 27 octobre à Anglet.
Voilà, qui est aussi un séminaire diocésain, puisqu'on forme des prêtres diocésains aussi au séminaire rédemptorisme à terre, mais ce sont des jeunes issus du chemin néocatéchuménal et qui sont appelés aussi à une mission dans le cadre du chemin. Même s'ils commenceront, puisqu'ils sont prêtres diocésains, à assumer un ministère dans notre diocèse, mais je serai moralement tenu de les envoyer, selon les besoins de leur réalité ecclésiale, là où on aura besoin d'eux, n'importe où dans le monde, parce que c'est un séminaire qui est à dimension missionnaire, et mission ad gentes.
Merci beaucoup, Monseigneur Hayet, pour cet entretien. À très bientôt sur les ondes de Radio Lapourdie et de Radio Présence.
Merci.